Épître aux Romains, chapitre 1er. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur la terre et c'est une terre qui est vouée déjà à la destruction. Il n'y a plus, je dirais, d'espérance que les choses s'arrangent, puisque la Bible nous avertit, le Seigneur nous en a parlé, que ce monde sera détruit. Mais le Seigneur nous a fait aussi des promesses pour nous aider à tenir ferme malgré les maux, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Fuir un problème ne résoudra pas le problème du malheur sur la terre. Tu peux vouloir fuir une situation sur ton lieu de travail, tu peux même changer de pays comme certains le font. J'écoutais dernièrement à la radio une femme qui disait « J'ai quitté la France parce que la France ne me faisait plus rêver. Je n'espérais plus. Je n'ai plus confiance à la politique. Je n'ai plus confiance à ceux qui dirigent le pays. Alors j'ai préféré quitter ce pays-là. » Mais la réalité, c'est que là où elle est partie, les problèmes ne manqueront pas non plus. Il n'y a pas un endroit sur la terre où la paix totale existe. Il n'y a pas un endroit sur la terre où l'honnêteté d'une façon totale existe. Le monde est pourri. Parce que qu'est-ce qui fait le monde? C'est l'homme. On ne peut pas parler de terre, on ne peut pas parler de pays, on ne peut pas parler de nationalité s'il n'y a pas des humains sur cette terre-là. Mais les problèmes qui existent sur la terre, même certaines catastrophes naturelles, sont liés tout simplement au mauvais cœur de l'homme. Donc partout où il va, il est tout simplement mauvais. Je ne vois pas un voleur qui a été voleur toute sa vie uniquement parce qu'il change de pays, soudainement il va devenir bon. Si tu es voleur, tu es voleur. Si tu es malhonnête, tu es malhonnête. Le cœur de l'homme ne peut pas être transformé à cause des circonstances ou bien des procédures que les humains eux-mêmes vont établir. Nous voyons à travers le code de la route qu'on ne fait qu'installer des radars. On ne fait que fabriquer des radars de plus en plus sophistiqués pour pouvoir contraindre les gens à réduire la vitesse. Mais la réalité, c'est que tous ces moyens-là ne sont que des machines à sous. Les humains savent très bien que l'homme ne peut pas changer comme ça. Et tous ces moyens-là ne font que faire rentrer de l'argent dans l'État. Mais ça n'amène pas moins d'accidents. D'ailleurs, le taux de mortalité par la route n'a fait qu'augmenter. Donc ça montre bien que tous les moyens que les humains mettent en place pour essayer de corriger l'homme, pour essayer de l'éduquer, ça ne fonctionne pas. Parce que l'éducation de l'homme ne peut pas se limiter, ne peut pas se suffire à de simples mesures humaines. Mais il y a besoin de faire une transformation totale de la personne et cette transformation ne peut se faire que par le Seigneur. Alors devant cette réalité-là, chercher à vouloir être heureux sur la terre, chercher à vouloir connaître le véritable bonheur sur la terre, eh bien c'est une course contre le vent. Voilà, c'est à la recherche du vent. Jamais personne ne peut saisir le vent et de cette même manière que jamais personne ne pourra saisir le véritable bonheur et la véritable paix en dehors que celle que Dieu peut nous donner. Alors, devant cette réalité, ce n'est pas être fataliste. Certains pourront dire, oui, mais bon, il est fataliste, voilà. Mais non, la réalité, c'est la réalité. Dire que le soleil est jaune ou bien que le ciel est bleu et que ça ne changera pas, ce n'est pas être fataliste, c'est reconnaître que les choses sont ainsi et qu'elles demeureront ainsi. Alors, s'il y a le mal sur la terre et que nous disons qu'il n'y a pas d'espoir sur la terre, c'est tout simplement une réalité qui est vraie. Donc, nous exposons ces faits que chacun d'entre nous, eh bien, nous voyons de nos propres yeux, que nous entendons et quelquefois même que nous subissons. Alors devant cette réalité-là, le Seigneur nous donne un moyen, un conseil, eh bien, c'est tout simplement de vivre par la foi. Et c'est notre thème de ce matin, c'est de vivre par la foi, avoir la foi afin d'être capable, malgré les circonstances de la vie, d'avoir une vie qui reflète la nature de Dieu, d'avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 15, la Bible nous dit ceci. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juste premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul explique que l'évangile n'est pas réservé à certaines personnes. L'évangile est pour le juif comme pour le grec. Le juif, celui qui représente le peuple de Dieu, et le grec, c'est-à-dire celui qui n'était pas appelé premièrement à la promesse, mais qui concerne le reste des humains qui n'avaient pas reçu des promesses physiques comme les juifs, mais il vient par l'évangile dire que ces promesses qui étaient valables pour les juifs sont aussi valables pour ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Autrement, nous aussi. Et il dit que l'évangile est une puissance. Il n'en a pas honte. Mais elle n'est pas une puissance pour tout le monde. Elle est la puissance pour celui qui croit. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Mais il n'est pas grand et tout puissant pour tout le monde. Il est grand et tout puissant pour celui qui le croit. Dans le psaume 150, on nous dit « Louez l'Éternel selon l'immensité de sa grandeur ». C'est-à-dire en fonction de la représentation que tu te fais de Dieu, c'est cette représentation qui va aussi influencer la façon dont tu vas vivre ta foi. Si tu as l'image d'un Dieu qui est tout puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre, ta façon de vivre le démontrera aussi. Mais si ton Dieu est celui qui est encore sur la croix, ou bien c'est celui qui est encore bébé dans la crèche, ou bien ton Dieu, c'est celui qui est une statuette, ça va aussi influencer ta façon de vivre. Et on verra la différence entre celui qui appartient au véritable Dieu et celui qui appartient au Dieu qui a la dimension d'un homme. Et l'apôtre dit que c'est une puissance. Maintenant, il dit que mais cette puissance-là ne peut être que vécue en quelque sorte que par la foi. C'est pourquoi il est écrit « Le juste vivra par la foi ». C'est une façon de nous dire que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre. Pas vivre à la façon des humains, puisque la plupart des païens ou la totalité des païens, tels que nous étions aussi autrefois, on ne croyait pas en Dieu, mais on vivait dans le sens des hommes. On respire, on marche, on court, on nage, on va se visiter tel endroit, on va en vacances. Donc il y a une forme de vie qui est manifestée. Mais ce n'est pas de cette vie-là dont l'apôtre parle et dont la Bible parle. Il dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire quelle vie ? La vie de Dieu, non pas la vie des hommes. Autrement dit, la vie de Dieu, celle que le Seigneur nous a donnée en permettant que Jésus-Christ soit crucifié et que, par conséquence, lorsque l'on croit, on reçoit le Saint-Esprit, vivre cette plénitude, vivre la vie que le Seigneur veut pour nous, nécessite la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est gratuitement que nous avons été sauvés, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire que gratuitement le Seigneur nous a offert le salut, mais nous recevons ce salut en contrepartie, en donnant, en manifestant la foi. Donc sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu et vivre les projets du Seigneur. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ont l'impression que Dieu est trop loin, qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés, qui ont l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne parle pas, que Dieu ne répond pas. Mais le Seigneur ne peut pas mentir. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Alors si nous ne sommes pas conduits dans la vérité, si nous n'entendons pas la voix du Seigneur lorsque nous l'invoquons, ce n'est pas que le problème vient de Dieu, c'est que le problème vient de nous. Et l'une des barrières qui empêche que nous puissions entendre la parole de Dieu, l'une des barrières qui empêche que le Saint-Esprit nous conduise de façon libre, c'est tout simplement le manque de foi. Et lorsqu'on n'a pas la foi, on entre dans des raisonnements. On cherche à se justifier, à justifier nos choix, à justifier nos erreurs. On cherche à aider Dieu en ajoutant un petit peu d'ingrédients, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, comme si ce que le Seigneur nous avait présenté à table n'était pas bon. Donc il faut en quelque sorte corriger Dieu, il faut en quelque sorte aider Dieu. Mais les hommes qui ont cherché à ajouter dans ce que le Seigneur a fait, à aider Dieu dans ce qu'il aurait mal fait, ils ont fini tout simplement à la morgue. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas corriger ce que le Seigneur a fait. Nous sommes les créatures de Dieu. À quel moment l'ordinateur va pouvoir, je dirais, diriger l'homme ? L'ordinateur lui-même a été créé par un homme. Lorsqu'il a besoin de la maintenance, c'est l'homme qui vient le soutenir. Alors comment toi qui es la création de Dieu, tu peux pouvoir aider Dieu ? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. L'intelligence que tu as vient de lui. La capacité de voir, d'entendre vient de lui. Alors à quel moment et avec quelle intelligence supérieure à Dieu, tu vas pouvoir l'aider et corriger dans là où le Seigneur se serait trompé. La vie que tu as aujourd'hui, si tu marches dans les voies du Seigneur, elle est voulue par Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en permettant que tu sois dans telle épreuve. Dieu ne s'est pas trompé en permettant que tu sois dans telle vie, si véritablement tu as donné ta vie au Seigneur. Mais si les promesses de Dieu semblent loin, si la parole de Dieu semble loin, la réponse du Seigneur semble absente, c'est que bien souvent, le problème vient de nous. C'est que nous n'avons pas la foi. Et ça se démontre dans notre vie. C'est une vie qui est faite de haut et de bas, et quelquefois beaucoup plus de bas que de haut. Et on a le sentiment que finalement, le Seigneur fait du favoritisme. On a le sentiment que le Seigneur élève certaines personnes et que quelque part, il abaisse d'autres. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement qu'il n'est pas possible de vivre la vie de Dieu si nous n'avons pas la foi. La foi est la base de notre communion avec Dieu. La foi est la base de notre départ de vie chrétienne avec le Seigneur. Sans la foi, on ne peut pas accéder au projet de Dieu. On ne peut pas accéder au plan du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la foi. Je ne parle pas de la foi qui nous permet simplement de venir ici. Je parle de la foi qui nous permet d'accepter tout ce que le Seigneur impose à notre vie et de continuer à lui faire confiance qu'il ne s'est pas trompé. Je parle de la foi qui nous emmène même dans l'épreuve à dire que Jésus-Christ est Seigneur, même dans la maladie à proclamer que mon Dieu est le Dieu qui guérit. C'est de cette foi-là que je parle et que l'apôtre Paul nous invite à expérimenter chaque jour de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est contraint et obligé de permettre des moments et des temps difficiles afin que cette foi s'exprime, mais surtout qu'elle grandisse. Parce que nous sommes qu'au commencement, lorsque le Seigneur annonce la fin du monde à ses disciples et qu'il dit qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, il dit ce n'est que le commencement des douleurs. Donc déjà, on a le sentiment humainement parlant que c'est beaucoup. Mais le Seigneur dit ce n'est que le commencement des douleurs. Parce que le monde va atteindre un niveau de mal et c'est ce qui fera que le Seigneur reviendra lorsqu'il verra que ses disciples souffrent. Pour abréger cette souffrance, il viendra. Mais il dit que nous sommes tout simplement au commencement des douleurs. Hébreux 11, nous lisons la définition que l'apôtre Paul nous donne de la foi. Puisque avoir la foi, c'est une chose, mais si nous ne savons pas en réalité qu'est-ce que la foi, comment allons-nous la désirer, comment allons-nous la demander? Hébreux 11, au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est ce que nous n'avons pas encore. Ce qu'on espère, c'est ce qui peut paraître loin, quelquefois à notre niveau qui peut même paraître inaccessible. Mais on espère, c'est-à-dire qu'il y a une envie de connaître ça. Et l'espérance, la foi, va nous donner en quelque sorte quelque chose qui peut être inaccessible, va nous mettre dans une position où dans notre cœur nous croyons que c'est possible. On n'a pas encore la chose, mais on est dans la configuration où désormais, ce qu'on pensait inaccessible, on ne l'a pas encore, mais on croit désormais que c'est possible. On croit désormais que c'est possible. Parce que ne pas croire que quelque chose est possible, on ne va même pas l'espérer. Aujourd'hui, avec le travail que tu as, les moyens que tu as, je ne sais même pas si tu peux te mettre au niveau d'espérer avoir un jet privé. Avec les moyens que tu as, le SMIC, même si tu gagnes 2 000 ou 3 000 euros, ça ne suffit pas pour avoir un jet privé, un avion personnel. Rien que déjà le stationnement, de le laisser stationner là où il est, ça te coûte énormément d'argent qui dépasse déjà ton salaire. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui va te venir à l'idée un jour d'avoir un jet privé. Mais pour celui qui gagne 1 million d'euros, qui gagne 500 000 euros, 900 000 euros par mois, lui, il y pense. Parce que les moyens lui disent que c'est envisageable. Maintenant, nous, humainement parlant, nous n'avons rien. Mais par la foi, ce qui était impossible, même si on ne l'a pas encore, on se dit, c'est possible maintenant. Je ne sais pas par quel moyen, mais je pense que c'est possible. C'est ça la foi. On a l'espérance que ce qui est impossible aux humains, avec Dieu devient possible. Alors on espère la chose. Et puisqu'on espère, on est désormais dans une forme d'attente. Parce qu'on est convaincu que ce n'est qu'une question de temps, que ce n'est qu'une question de jours. Mais nous savons que désormais, les choses sont possibles. Et la conséquence, il dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que maintenant, ce que j'espère avoir, dans ma façon de vivre, je démontre que je l'ai déjà. Je n'ai pas encore le jet privé. Je n'ai pas encore la voiture. Je sais que pour aller travailler, il me fallait une voiture. Le transport en commun, là où je vis, c'est difficile. Alors, puisque j'ai désormais l'espoir, je vis maintenant comme quelqu'un qui a déjà la voiture. C'est-à-dire, je commence déjà à planifier mes rendez-vous. Je commence déjà à prendre rendez-vous à tel endroit parce que je sais que la chose arrive. Donc, j'adopte une vie comme quelqu'un qui a déjà obtenu ce qu'il espérait. Je suis malade depuis longtemps. Cette maladie m'handicape un peu. Certains disent, mais je ne t'ai pas vu à la communion fraternelle, tu n'es pas venu au culte. Ah non, j'avais les narines bouchées. Ah bon? Ah, j'avais un peu mal à la gorge. Mais lorsqu'on voit ça, le Seigneur dit, mais c'est bien triste. Donc tu penses que ta guérison arrivera plus vite parce que tu restes à la maison. Tout dépend de Dieu. Maintenant, celui qui a cette foi-là, qui a l'espérance d'être guéri, bien que la maladie l'handicape, il va aller louer son Seigneur comme si Dieu l'avait déjà exaucé. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et vivant de cette manière-là, nous glorifions tout simplement le Seigneur. J'aime beaucoup donner l'exemple de David, qui venait pour combattre Goliath. Et les gens étaient dans la peur, le peuple d'Israël. Tous étaient apeurés devant cet homme-là. Mais lorsque David est venu, mais il dit à Goliath, mais ce n'est pas une question de combat. Je ne viens pas pour combattre avec toi. Il dit, mais la victoire appartient à Dieu. Donc David était convaincu que ce n'est pas une question de bagarre. C'est simplement une question de manifester l'attitude que cet homme-là est déjà mort. Donc je vais tout simplement aller me présenter devant lui et confirmer que la victoire appartient à Dieu. Donc David, par la foi, voyait déjà cet homme mort, puisqu'il lui prophétise à l'avance que je vais te couper la tête. Et ce qui va se passer, il va le tuer et lui couper la tête. Donc David, lorsqu'il venait devant Goliath, ne venait pas pour créer quelque chose. Il venait tout simplement comme quelqu'un qui avait déjà vu la victoire. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. David a eu cette attitude-là et c'est pourquoi il est cité dans les héros de la foi parce que c'est un homme exceptionnel qui a su faire confiance en Dieu. Il n'a pas regardé à lui-même, mais il a regardé à ce qui était possible. Et l'espérance de combattre Goliath était devenue vraie parce qu'il avait le souvenir de qui était son Dieu. C'est ça avoir la foi. Nous prenons Romains chapitre 10 et nous allons donner quelques points, je vais être court, qui nous montrent tout simplement comment avoir la foi. Parce que certains disent, j'aimerais bien avoir la foi. Et lorsqu'on pose des questions de cette manière, ça donne l'impression que la vie chrétienne est compliquée. Mais si les choses doivent être compliquées, alors la question que je nous pose, pourquoi Christ est-il mort? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été crucifié si notre vie chrétienne doit encore être difficile? Ça n'aurait servi à rien. Autant qu'on nous laisse selon la loi de l'Ancien Testament qui demandait à l'homme d'accomplir tous les commandements pour être considéré comme juste. Ça veut dire que sur les 10 commandements, si tu péchais contre un seul, c'est comme si tu étais coupable de tout. Alors s'il fallait que sous la grâce, la vie chrétienne nous soit encore difficile, comme à l'Ancien Testament, de prouver par nos œuvres, de prouver par notre vie que nous pouvons être sauvés. Mais dans ce cas, pourquoi Christ a été crucifié? Pourquoi Jésus a été crucifié si avoir la foi doit encore être difficile? Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié si saisir la parole de Dieu doit encore être difficile ou réservé à une certaine élite de ceux qui ont été à l'université, de ceux qui ont bac plus 10? Dans ce cas, finalement, à quoi ça sert? Pourquoi Christ est mort? Ce qui était difficile autrefois. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur a crié « Tout est accompli », le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ainsi, la séparation qui existait entre le lieu saint et le lieu très saint n'était plus. Et c'était le message du Seigneur pour nous dire que désormais, ce qui était réservé à un seul homme, une seule fois par an, est devenu possible à tous ceux qui croient en Jésus, entrer dans la présence de Dieu qui était représentée dans le temple par le lieu très saint, dont nous avons désormais accès. Ce qui était difficile, ce qui nécessitait des procédures et qui n'était permis qu'à un seul homme, toutes ces procédures-là ont été annulées. Faire tel sacrifice, faire telle chose, brûler l'encens, faire ceci, faire cela, le Seigneur a tout annulé pour nous simplifier. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il a simplifié les choses. Autrefois, c'était brouillon, comme ça l'est pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas où donner de la tête. Est-ce que je dois aller chez les témoins de Jéhovah? Est-ce que je dois aller chez les musulmans, chez tel ou chez tel? Le Seigneur nous a simplifié les choses. Il a dit, « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. » Alors, puisque les choses nous ont été simplifiées, comment le Seigneur va-t-il encore nous rendre la vie chrétienne difficile? Comment le Seigneur nous rendrait-il encore le fait d'accéder à la foi pour vivre son projet va encore être difficile? Il y a un seul obstacle à la foi. Il y a un seul obstacle à la foi, c'est nous-mêmes et la mauvaise disposition de notre cœur. La foi est simple pour celui qui accepte de vivre selon les préceptes et la direction que le Seigneur lui donne. Celui qui sait demeurer comme un enfant, c'est celui-là qui excède à la foi attendue par Dieu. Mais l'être humain est rempli de raisonnements, est rempli de convoitises. Il voudrait des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Il voudrait des choses qu'il voudrait imposer à Dieu de lui donner. Et puisque Dieu ne lui donne pas, quelque part Dieu n'existe pas. Quelque part Dieu lui a abandonné. Les hommes et les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme des enfants gâtés. Un enfant gâté, lorsqu'on lui refuse quelque chose, il dit « Mes parents ne m'aiment pas. Ils ont refusé de me donner ça, mes parents ne m'aiment pas. Il aime plus que d'autres parce qu'il a donné. » Et les chrétiens se comportent comme ça. Seigneur, si vraiment tu m'aimes, Seigneur, vraiment si tu es avec moi, si tu me donnes le travail, Seigneur, alors ma vie va changer. Si tu me donnes le mariage, si tu me donnes l'enfant, alors la vie va changer. Donc on veut jouer au troc avec Dieu. On veut tenter le Seigneur en l'obligeant à produire quelque chose qui va justifier qu'il nous aime. Le sacrifice de Jésus-Christ parle une fois pour toutes en ce qui concerne l'amour de Dieu. Que tu vives avec la pauvreté selon toi, que tu n'aies qu'un seul vêtement, que tu manges qu'un repas par jour, ça ne changera pas la réalité que Dieu t'aime. Ça ne changera pas la réalité que Dieu est amour. Mais c'est à toi d'accepter, de vivre dans les conditions que Dieu t'a placées et de ne pas conditionner l'amour de Dieu en fonction de ce qu'il doit te donner ou en fonction de ce que tu aimerais avoir. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est de croire que Dieu a toujours raison. Dans Romains chapitre 10, il est écrit au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça paraît tellement simple lorsqu'on dit comme ça. Et quand certains disent, « Mais comment avoir la foi ?» On le ramène à Romains 10, 17. La Bible nous dit que pour avoir la foi, il suffit tout simplement de croire aux paroles de Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors il est évident que présentant les choses comme ça, je pourrais même dire que la prédication est terminée. Il suffit tout simplement de croire en ce qui est écrit. Plus tu es au contact de la parole de Dieu, plus cela va générer en toi la foi. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savons que le pain, l'aliment que nous mangeons chaque jour, est bon pour le corps. Et il est évident que un enfant qui va grandir normalement, c'est un enfant à qui on a donné la nourriture, la bonne nourriture au temps convenable. Lorsque nous voyons dans certains pays pauvres, nous voyons les gens qui ont un handicap physique, quelquefois, est souvent lié tout simplement à la malnutrition. C'est parce qu'ils ne mangent pas bien et surtout qu'ils ne mangent pas ce qu'il faut au bon moment. Et forcément, les enfants grandissent dans de mauvaises conditions de vie parce que la nourriture n'est pas bonne. Mais cette nourriture-là, elle est uniquement pour le corps. Maintenant, la Bible nous dit que la nourriture pour le corps ne suffit pas pour être au niveau où Dieu nous attend. Ça ne suffit pas. Le corps, notre vie, a aussi besoin d'être nourri spirituellement parce que nous sommes aussi, une partie de nous est aussi spirituelle. Et cette partie-là, pour croître et pour grandir selon le plan de Dieu, a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Alors, lorsque nous lisons la parole, cette parole-là nous nourrit, nous change et nous emmène à être au niveau auquel Dieu nous attend. Lorsque le Seigneur parle en parabole en ce qui concerne la croissance spirituelle, il dit que l'homme qui sème une graine sous la terre, Il dit, il a semé la graine. Et la Bible nous dit que cet homme-là, qu'il veille ou qu'il ne veille pas, ce n'est pas ça qui va influencer le développement de la graine sous la terre. Il dit que petit à petit, la graine va faire ses racines et va sortir jusqu'à devenir un arbre. Et il dit que la croissance est de cette manière-là. Ça veut dire qu'on ne comprend pas tout le phénomène. Comment la graine va se développer sous la terre, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Mais le Seigneur dit, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose. Nous aussi, le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre. Mais il nous dit tout simplement que lorsque nous sommes au contact de sa parole, que nous acceptons sa parole telle qu'il nous l'a donnée, c'est de cette manière-là que la foi grandit. Par quel phénomène? Ce n'est pas notre problème. Dieu ne demande pas de comprendre ça. Il demande tout simplement de croire. De la même manière que la plante fait le travail sous la terre, germe sous la terre, de cette même manière que plus nous sommes au contact de la parole de Dieu, plus nous grandissons aussi dans la foi. Mais la réalité, c'est que lire la parole de Dieu aujourd'hui est devenu un combat pour beaucoup de personnes. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, bien souvent nous savons que nous ne passons pas assez de temps dans la parole de Dieu. Et on a le sentiment d'être oublié. On a le sentiment d'être faible devant les épreuves. On a le sentiment que ce que Dieu permet dans notre vie est beaucoup trop élevé pour nous. La réalité, c'est que nous semblons être faibles uniquement parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. On ne fait pas le lien tout de suite entre le fait de souffrir de la faim ou de souffrir des manques ou de souffrir de la maladie, en quoi la parole de Dieu va changer mon état. Donc pour nous, c'est tellement irrationnel, il n'y a aucun rapport entre ma maladie et la parole de Dieu qu'on ne prend pas la peine de méditer la parole de Dieu. Or c'est cette parole-là qui va travailler en nous, qui va nous mettre dans des conditions où la maladie ne sera plus un problème, qui va nous mettre dans des conditions où l'espérance va renaître et la possibilité de se dire que c'est possible d'être guéri va, comment dire, revenir avec force. On aura cette conviction avec force qui va nous amener à vivre comme des personnes qui ont déjà reçu leur guérison. C'est ça la véritable foi. Si nous ne sommes pas exposés à la parole de Dieu, bien aimés, comme on dit, il n'y a pas de miracle. Le Seigneur nous a simplifié les choses. Il te manque la foi. Médite la parole et crois en la parole telle que le Seigneur nous l'a donnée, telle qu'il nous l'a présentée. C'est de cette manière-là que nous allons grandir dans la parole de Dieu. Il n'y a pas, je dirais, d'explication mécanique ou plus compliquée que ça. Souvent, c'est nous qui nous compliquons en se disant « mais c'est compliqué, mais pas… » Non, faisons tout simplement confiance que ce qui est écrit de la manière dont nous le lisons, c'est ce qu'il nous faut pour grandir dans la foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, comprenons bien aimé que toutes nos bénédictions et le projet que le Seigneur a pour nous peut être bloqué uniquement parce qu'il nous manque la foi. Dieu, dans sa bonté, peut permettre certaines choses. Comme il dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, la bonté de Dieu, tous les humains l'expérimentent et la vivent d'une manière ou d'une autre. Ils profitent du soleil, ils profitent de tout ce que le Seigneur a créé de bon pour vivre. Et que ce soit les païens comme les enfants de Dieu. Nous tous, mais en tant qu'enfants de Dieu, mais il est naturel que nous ayons des privilèges que le monde n'a pas. Mais comment accéder à ces privilèges-là si nous n'avons pas la foi? Nous avons besoin de la foi pour faire la différence entre ceux qui croient véritablement au Seigneur et ceux qui ne croient pas. Comment avoir la foi? Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham qui entend la voix de Dieu alors qu'il est âgé de 75 ans. L'âge a son importance. C'est plus facile lorsque tu connais une personne depuis 2 jours, même si vous vous entendez très bien, de se séparer parce que ben, le travail ou les réalités de la vie nous emmènent à partir. C'est plus facile lorsque tu te retrouves dans un pays, dans un lieu que tu apprends à aimer et que tu passes une semaine et puis de partir ailleurs. Mais quand tu as passé toute ta vie à un endroit, c'est là où tout ce que tu es, tu l'as construit. Tout ce qui est à toi est dans ce pays-là. 75 ans de ta vie a été bâti dans ce pays. Tu as tout rencontré là, tu as été formé là, tu es devenu un homme là. Et 75 ans après, on te dit quitte ce lieu-là. Imaginons la difficulté. Toute ta vie, tu arrives à l'âge de la vieillesse, on te dit tu laisses tout et tu vas ailleurs. Ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui habitent des logements. Ils étaient nombreux à une certaine époque, une famille nombreuse. Et petit à petit, les enfants sont partis. Et les parents qui sont âgés maintenant, qui sont des grands-parents, qui sont âgés de 70 ans ou plus, habitent toujours la maison à deux, alors que la maison a au moins 6 ou 7 pièces. Alors je posais la question à une sœur qui travaille dans l'immobilier. Je dis, mais pourquoi vous laissez deux personnes dans une grande maison comme ça, alors qu'il y a des familles qu'on entasse? Il serait simple de les faire déménager pour donner la place à d'autres. Elle me dit, non, selon la loi, des personnes qui arrivent à un certain âge, on ne les dérange plus, parce qu'on estime qu'ils n'ont plus la force de déménager. Alors, regardons le cas d'Abraham. 75 ans, avec tout son troupeau, avec tout ce qui représentait sa richesse. On lui dit, tu déménages tout ça. Non seulement on lui dit, tu déménages, mais on te dit, va d'abord, je vais t'indiquer la route après, ou dans le chemin, je vais t'indiquer. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas une vision claire. La seule réalité, c'est simplement la voix qu'il a entendue de Dieu. Sors de ta patrie et va là où je te montrerai. Abraham a obéi. Il ne comprenait pas tout. Il ne savait pas vraiment comment les choses allaient se faire, mais il a tout simplement obéi. Comment avoir la foi en obéissant même lorsqu'on ne comprend pas? Par quel phénomène? On te gifle une joue, Dieu te dit tends l'autre. Humainement parlant, on va dire, si je donne l'autre, c'est sûr qu'il va ajouter une troisième et une quatrième, et tous les jours, il va m'embêter. Comment, dans le fait que je tends l'autre joue, ça va attirer la gloire de Dieu pour que celui-ci change? Ça, c'est le raisonnement humain. Dans ce que le Seigneur nous demande, il n'y a rien de rationnel. Ce n'est pas comme les maths où la logique te dit que 1 plus 1 égale 2. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Abraham a été appelé le père de la foi. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'il a ressuscité des morts ou bien parce qu'il a donné la vie aux aveugles. Non, il a tout simplement obéi. Il a tout simplement fait confiance à Dieu. Comment avoir la foi? En faisant confiance à ce qui est écrit. On ne sait pas comment Dieu fera. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est écrit. Alors j'obéis, entre guillemets, bêtement. C'est ça, avoir la foi. Pour avoir la foi, commençons par obéir. On ne comprend pas tout, on n'est pas certain de tout. Mais puisque c'est écrit comme ça, je vais tout simplement le faire. Lorsque le Seigneur vient vers ses disciples, alors qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont pas attrapé de poisson, c'était des pêcheurs expérimentés. Et lorsque le Seigneur vient, il dit, jetez le filet. Il dit, mais on a pêché toute la nuit. Il dit, mais sur ta parole, je vais le faire. En le faisant, il a certainement simplement voulu obéir à ce qu'on lui disait. Mais au fond de lui, il devait se dire, mais c'est mon travail, je l'ai fait toute la nuit, il n'y a rien. Je vais quand même le faire. Il l'a fait et il a vu la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Obéis tout simplement tel que c'est écrit. Cherchez à discuter, cherchez à vouloir prouver que les choses pourraient être différentes, ne va faire que t'éloigner du Seigneur et passer à côté de toutes les grâces que Dieu a prévues pour toi. Accepte d'obéir bêtement, tel que c'est écrit. Quand le Seigneur parle à Josué, il lui dit, Josué, tu veux réussir. dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. Il n'y a qu'un seul moyen. Je t'envoie dans la terre promise. C'est toi qui dois faire passer le peuple dans la terre promise. Et il devait y avoir des guerres. Le Seigneur n'a pas dit à Josué, prépare bien l'armée. Préparez bien vos armes. Si vous voulez conquérir le pays que je vous ai donné. Le Seigneur lui a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà le conseil que Dieu donne à Josué pour entrer dans son projet. Médite la parole jour et nuit. Il lui dit, agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne cherche pas à inventer ou à fabriquer quelque chose. Tel que c'est écrit, applique seulement tel que c'est écrit. Les chrétiens aujourd'hui aiment entrer dans des interprétations qui vont dans son sens. Ils cherchent à justifier sa position qui ne semble pas conforme aux Écritures en tordant les Écritures ou en faisant celui qui ne comprend pas ce qui est écrit. Mais je dis souvent qu'il y a des choses qui sont difficiles dans la Bible, c'est vrai. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, c'est difficile de tout comprendre. Quand tu lis certaines prophéties de Daniel, c'est difficile de tout comprendre. Mais ce qui constitue notre marche avec le Seigneur, en vue de notre salut, personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Quand c'est écrit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne veux pas vous pardonner. Qui n'a pas compris ça? Même si le français ce n'est pas ta première langue, qui n'a pas compris ça? On te joufle une joue, tu donnes l'autre. Qui ne comprend pas? Même celui qui ne parle pas bien français comprend très bien. Et gloire à Dieu, il y a des Bibles aussi dans ta langue natale. Donc va lire là-bas, au lieu de dire « je n'ai pas bien compris le français », donc cherche une Bible dans ta langue natale, comme ça tu n'auras plus l'excuse de dire « je n'ai pas compris ». Tout ce qui est lié à notre salut, le Seigneur l'a rendu simple. Parce que le but du Seigneur, c'est de nous sauver. Et de nous, en nous sauvant, il nous donne sa vie afin que le temps qui nous reste à vivre sur terre, nous puissions être en parfaite communion avec lui. Or, cette parfaite communion ne peut pas être possible sans la foi. Alors, comment Dieu, qui veut que nous puissions marcher avec lui, va faire en sorte qu'avoir la foi soit quelque chose de difficile? Loin de là. La foi est accessible à celui qui fait le choix tout simplement de croire. En obéissant à la parole de Dieu, telle que c'est écrit, sans discuter, sans murmurer et tout simplement à appliquer. Arrêtons, bien aimé, lorsqu'on nous reprend, de dire « oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Il y a des moments donnés, il faut simplement fermer la bouche et de dire « Seigneur, je reconnais que c'est vrai, mais c'est dur ». Voilà, soyons honnêtes. Seigneur, c'est dur, je n'y arrive pas, mais je sais que c'est ça qui est vrai. L'apôtre Paul, dans Romains 7, lorsqu'il explique la difficulté qu'il y a au-dedans de lui, il dit « lorsque je veux faire le bien, je fais le mal ». Il y a au-dedans de moi une loi qui m'impose cela. Mais il dit, mais je sais que la loi est bonne. Je sais que la loi est bonne, donc je ne justifie pas mes difficultés parce que c'est comme si c'était impossible. Il dit, non, je sais que la loi est bonne et qu'au fond de moi, lorsque je décide de faire le bien, mais il y a la loi du péché en moi qui me pousse à faire le mal. Il est honnête, mais il reconnaît que la loi est bonne. Il ne conteste pas en disant que c'est compliqué à vivre, c'est compliqué. Non, loin de là. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce qui conditionne la vie des humains aujourd'hui, qui a une place très très importante, c'est l'argent. Et dans certaines vies, elle a une place aussi importante que Dieu lui-même. Et pour d'autres, l'argent est carrément leur Dieu. Ils ne jurent que par l'argent, ils ne vivent que pour l'argent. Tout problème doit être réglé avec l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le bonheur. Le Seigneur dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. C'est l'argent qui permet que nous puissions acheter sur terre. Ça, c'est la logique des humains. Le Seigneur, dans Matthieu 6, lorsqu'il enseigne ses disciples, il donne l'exemple de l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne, mais pourtant Dieu s'en occupe. Il donne l'exemple des fleurs qui sont mieux revêties même que Salomon dans toute sa gloire, et c'est Dieu qui s'en occupe. Et le Seigneur dit, mais vous avez beaucoup plus de valeur que des oiseaux. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain, loin de là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, vous l'aurez par-dessus tout. Le Seigneur nous invite à accepter la condition dans laquelle nous sommes. Accepter que ce que tu désires, Dieu ne te le donne pas. Parce que le Seigneur estime qu'au moment où tu lui demandes, ça reste une chose secondaire. Ce n'est pas ça qui va influencer ton salut. Ce n'est pas ça qui doit influencer ta vie. Alors Dieu ne nous l'accorde pas. Avoir la foi, ça passe aussi par accepter la condition dans laquelle Dieu nous a laissés. Contentez-vous de ce que vous avez. Acceptez de croire que Dieu ne s'est pas trompé et que ce qui semble nous manquer, en réalité, ne nous manque pas. Parce que si réellement c'était indispensable à notre vie, alors le Seigneur nous l'aurait accordé. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vivre dans le contentement, c'est se plaire dans la vie qui est la nôtre avec le Seigneur. Regarder aux autres, envier les autres, avoir le sentiment que nous sommes oubliés et que Dieu pense aux autres, ça c'est refuser le contentement. Le refus du contentement va nous emmener dans la convoitise, va nous emmener dans des désirs, des choses secondaires pour lesquelles nous allons dire que si j'ai telle chose, je serai plus heureux. Ça, ce n'est pas avoir la foi. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la foi. Mais la foi vient par le fait que j'accepte ma condition. J'accepte ma condition parce que le Seigneur a fait la promesse de s'occuper de moi. J'accepte de vivre avec ce que j'ai aujourd'hui et je considère que je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. Je n'ai pas besoin de plus pour vivre le projet que le Seigneur a préparé pour moi. Je n'ai pas besoin de plus. Et lorsqu'on accepte cette réalité-là, on grandit par la foi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. En fait, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que parce que tu acceptes de vivre dans le contentement, lui, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Et parce que tu verras la gloire de Dieu être manifestée et pourvoir à tes besoins, parce que tu as accepté de vivre dans le contentement, c'est cette gloire-là, eh bien, finalement, qui va renforcer ta foi. Pour avoir la foi, on a besoin de voir et de sentir la présence de Dieu. On a besoin aussi que le Seigneur se manifeste. On a besoin de voir avec nos yeux que le Seigneur fait certaines choses. Non pas de voir comme si on conditionnait, parce que la Bible nous dit qu'on ne marche pas selon la vue. C'est-à-dire que qu'on a lu dans Hébreux 11 que la foi est une la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, et j'avais expliqué que dans notre manière de vivre, on vit comme si Dieu nous l'avait déjà donné. Et c'est de cette manière-là que nous attirons la gloire de Dieu pour que les choses se manifestent. C'est la raison pour laquelle, dans Jean 14, le Seigneur dit, « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. » Donc le Seigneur est en train de dire que ce que vous allez demander dans la prière, je vais l'exaucer. Mais l'exaucement a un objectif. C'est que lorsque tu verras la gloire de Dieu être manifestée par la prière qui t'aura été exaucée, c'est de cette manière-là que Dieu sera glorifié. Donc ça donnera un sujet de louange, un sujet d'élever le nom du Seigneur. Et c'est le même concept, entre guillemets, en tout cas la même procédure, quand le Seigneur dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, si tu acceptes de vivre dans le contentement. Pourquoi ? Quand il dit, je ne te délaisserai point, ça veut dire que je vais pourvoir. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Et forcément, lorsque nous voyons la gloire de Dieu être manifestée, que nous sommes dans le besoin, qu'il pourvoit, que nous ne manquons de rien parce qu'il nous donne, forcément ça nous fait grandir dans la foi. Forcément ça affermit notre foi, de voir les œuvres que le Seigneur fait dans notre vie. Mais pour voir ces œuvres-là que Dieu fait dans notre vie, accepte de vivre dans le contentement. Accepte la condition de ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Accepte en te disant que Dieu ne s'est pas trompé. C'est de cette manière-là que notre foi va grandir, que notre foi va être exercée, qu'elle va se stabiliser et rester ferme une fois pour toutes dans le Seigneur. en acceptant les choses telles que le Seigneur nous les fait vivre aujourd'hui. Vivons dans le contentement, bien-aimé. Si Dieu veut nous bénir, au-delà de ce qu'on espère, que son nom soit béni. Mais ça ne doit pas être une recherche de notre part. Ça ne doit pas être une condition pour croire en Dieu. Il faut que Dieu me bénisse pour que je croie. Non, j'accepte la condition dans laquelle je suis. Et si Dieu décide de me donner au-delà, que son nom soit béni. Et je prendrai avec plaisir et avec joie tout ce que Dieu me donnera. Ça, c'est ce qui est sûr. On n'a pas à se cacher de ce que le Seigneur fait de bon dans notre vie. On doit bénir le Seigneur et glorifier le Seigneur. Toutefois, commençons par accepter de vivre dans le contentement. Malachi, chapitre 3. Malachi 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur parle à son peuple et qu'il reproche à son peuple de le tromper. Et le Seigneur dit, et vous dites encore, en quoi t'avons-nous trompé? C'est-à-dire que ces gens avaient une manière de vivre dans laquelle ils faisaient le minimum. Et ils avaient le sentiment que faire le minimum, eh bien, justifiait que quelque part Dieu n'ait rien à leur reprocher. On a fait notre part, donc Dieu ne peut rien nous reprocher. Mais faire la part dans la religiosité, faire notre part visiblement devant les hommes, ça ne reflète pas la réalité qu'il y a dans notre cœur. Ce que le Seigneur condamnait peut être expliqué, notamment lorsque le Seigneur parle de cette femme qui avait mis les seules pièces qu'elle avait. Et il dit à ses disciples, cette femme-là a donné plus que tous les autres. Pourtant, c'était rien ce qu'elle avait donné cette femme-là. Mais par rapport à la disposition de son cœur et à la réalité de sa vie, c'était quelque chose qui était beaucoup. Maintenant, lorsque le Seigneur dit, mais vous me trompez avec les dîmes et les offrandes, ça ne veut pas dire que les gens ne donnaient pas. Mais certainement, les gens devaient donner de leur superflu. Ils devaient tout simplement accomplir une tâche, accomplir une règle. Voilà, de façon à dire, j'ai accompli ce que je devais faire, je passe désormais à autre chose. Et le Seigneur dit, mais vous me trompez. Vous pensez que parce que vous donnez, que ça veut dire forcément que vous donnez selon ce que moi j'attends de vous. Loin de là. Comment avoir la foi? Mais en mettant Dieu à l'épreuve. Ce que le Seigneur attendait du peuple, c'est qu'il fasse selon ce que le Seigneur attendait véritablement. Et le Seigneur lui dit que si vous donnez de cette manière-là, vous allez voir ce que je vais faire derrière. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, il faut donner l'argent pour voir ce que Dieu va faire derrière. Je parle vraiment d'une manière beaucoup plus générale. De mettre le Seigneur à l'épreuve en ce qui concerne ses épreuves. Le Seigneur dit que si on obéit à sa voix, eh bien, on va aussi être béni. Alors Seigneur, je vais aussi prendre le risque d'obéir à tes commandements. Je vais prendre le risque d'obéir à ta parole et je vais voir si tout ce qui en suit va s'accomplir. Mettons le Seigneur à l'épreuve. Osons, ayons le courage de mettre en pratique ce qui est écrit. Puisque c'est écrit comme ça, Seigneur, je vais le pratiquer. Je vais le vivre afin de voir ta gloire. Mais, il est évident que dans ce que le Seigneur peut nous demander de faire, c'est quelque chose que la chair des fois n'accepte pas. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Comment vivait la première église? Ils donnaient tout. Ils vendaient leur maison. Ils mettaient leurs biens en commun. Personne ne disait que ça m'appartient. tout appartenait à Dieu et Dieu faisait en sorte que tous ses enfants en profitent. Et le Seigneur accomplissait par les apôtres des prodiges et des miracles. La crainte se répandait partout parce que la gloire de Dieu était grande. Pourquoi la gloire de Dieu était grande? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont mis Dieu à l'épreuve. Ils ont accepté de vivre l'évangile tel que Jésus-Christ l'avait laissé et ils ont vu la gloire de Dieu. Comment ne pas avoir la foi quand tu vois la grandeur de Dieu, quand tu vois les miracles de Dieu se manifester? Tu ne peux que t'attacher à ce Dieu-là. C'est de cette manière-là que Dieu se révèle. Pourquoi le Seigneur a repris son peuple dans le désert? C'est parce qu'il estimait avoir fait tout ce qu'il fallait pour que ce peuple-là puisse s'attacher à lui et croire. Il a fait des prodiges et des miracles en Égypte. Il les a sortis de l'Égypte sans qu'ils aient à combattre. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que ce peuple-là puisse croire une fois pour toutes que ce Dieu-là est le véritable Dieu. Ça, c'était le choix de Dieu, la volonté de Dieu de faire les choses ainsi. Maintenant, tout ce qui s'est passé autrefois, mais c'est aussi pour nous. Lorsque nous lisons et que nous contemplons ce que Dieu a fait, ça doit nous susciter la foi. Mais nous ne voulons pas nous contenter de l'histoire des autres. Nous voulons aussi avoir une histoire avec Dieu. Nous voulons aussi avoir une communion personnelle avec Dieu. Et ce que les autres ont expérimenté, parce qu'ils ont osé faire confiance en Dieu, mais nous aussi, nous voulons oser faire confiance en Dieu afin d'avoir la véritable foi. Elle est disponible. Dieu ne peut pas le refuser. Il ne peut pas refuser la foi. Mais si je peux dire, il y a certaines conditions. Ça demande d'abord notre choix. Je clôture avec 1 Jean chapitre 5, qui est ce qui est, je dirais, une fois de plus, à la portée de tous. C'est tout simplement de demander la foi à Dieu. Maintenant, il est évident que demander la foi à Dieu va impliquer certaines conséquences aussi dans notre vie. Si nous voulons avoir la foi, il faut que le Seigneur nous mette dans des dispositions qui vont nous obliger à manifester la foi. Donc, sache que quand tu pries pour avoir la foi, c'est comme si tu disais en même temps, « Seigneur, je accepte les épreuves que tu vas permettre pour me faire grandir dans la foi. » C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas avoir la foi ou désirer grandir dans la foi si tu n'acceptes pas ce que le Seigneur permettra dans ta vie pour te donner la foi. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alors lorsque nous lisons ce passage-là et que nous comprenons que le Seigneur veut que le juste vive par la foi, on a bien compris que Dieu ne peut pas nous refuser la foi. Le Seigneur ne peut pas nous refuser la foi. Voilà, et je conclus en disant que c'est aussi simple que ça, avoir la foi. Les moyens que Dieu nous propose sont très simples. Mais acceptons de mourir par rapport à notre chair, acceptons de mourir par rapport à notre vie humaine pour faire confiance au Seigneur et pour avoir la foi. C'est par la foi que nous allons expérimenter les projets de Dieu, entrer pleinement dans le plan de Dieu pour notre vie, et c'est par la foi que nous allons voir la gloire de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être utile au Seigneur. C'est impossible. C'est impossible. Alors, si ça fait un moment, peut-être que tu t'attends à Dieu, je ne sais pas de quelle manière, mais que les choses semblent être loin, que tu sembles être oublié, pose-toi d'abord la question, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu fais vraiment confiance au Seigneur? Si tu fais vraiment confiance au Seigneur, alors les choses se manifesteront d'elles-mêmes, parce que le Seigneur est fidèle. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Faisons confiance au Seigneur. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Chacun à notre niveau, nous savons ce qui nous emmène quelquefois à douter de Dieu, à nous poser des questions, ce qui nous emmène quelquefois à avoir le sentiment que le Seigneur s'est éloigné, que le Seigneur nous a oubliés. Nous allons tout simplement nous recommander entre les mains de Dieu et demander au Seigneur sa grâce afin que la foi qu'il désire voir en nous vienne tout simplement s'installer dans nos vies, demeurer dans nos vies. Seigneur Dieu, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, de vivre par la foi. Selon qu'il est écrit, Seigneur, que le juste vivra par la foi. Seigneur, nous voulons demeurer attachés à toi. Nous voulons croire, Seigneur Dieu de gloire, en tout temps et en toutes circonstances, que tu ne te trompes pas. Seigneur, toi qui es à l'origine de toutes choses, Seigneur, comment un homme pourrait-il te contredire, Seigneur? C'est une aberration. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons été quelquefois dans l'aberration, Seigneur, en voulant te corriger, en voulant t'aider, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Et puisqu'il est écrit, Seigneur de gloire, que tu ne peux pas nous refuser quelque chose que nous te demandons selon ta volonté, une chose est certaine, c'est que nous savons que ta volonté, c'est que nous puissions vivre par la foi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin, afin que tu restaures notre foi, que tu nous fasses grandir dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vivre par la foi, parce que nous voulons voir tes plans s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta vie être manifestée en nous, afin d'être véritablement des témoins, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure en nous l'amour de la parole, Seigneur. Il nous arrive bien des fois de passer à côté, d'être distrait, Seigneur Dieu de gloire, par la télévision, d'être distrait, Seigneur Dieu de gloire, par le téléphone, Seigneur, par l'ordinateur. Seigneur, nous voulons remettre les choses dans l'ordre, remettre les priorités, Seigneur, dans l'ordre, Seigneur, et faire de toi notre priorité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, oui, Seigneur de gloire, marcher par la foi, dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Seigneur, suscite en nous la véritable foi, dans le nom de Jésus, afin que, quel que soit, Seigneur, les temps et les circonstances, quels que soient les événements difficiles, Seigneur Dieu de gloire, que nous continuions de proclamer que tu es Seigneur. Dans la maladie, Seigneur de gloire, nous voulons continuer à proclamer que tu es Dieu. Dans la disette, Seigneur, nous voulons continuer à proclamer que tu es le Dieu qui pourvoit. Ô Dieu, dans la solitude, même lorsque nous sommes abandonnés des hommes, Seigneur, nous voulons continuer à proclamer que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous voulons apprendre, Seigneur de gloire, à nous rassasier de ta présence, Seigneur, à aimer ta présence plus que tout, parce que tu vis en nous, Seigneur de gloire, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi.